Da bist du von Haut. Wie sieht sie aus? Welche Faktoren sind mir wichtig? Wo sind Gefahren? Und welche Trends gehen es? Genau mit diesen Themen beschäftigt sich der Podcast New Work, eine Kollaboration zwischen der Chambre des Salariés und dem Lützebäuer Journal.
C'est la CSL qui a contacté le LISER pour faire cette étude à la fois sur les conditions de vie des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, leur trajectoire et aussi leur utilisation, leur connaissance des aides sociales.
Wir haben leider gefragt, dass sie ein bisschen ihre Situation beschreiben, für was sie der Meinung sind, dass sie in einer finanziell schwierigen Situation sind.
On a rencontré vraiment beaucoup de gens qui disaient, moi j'ai demandé une fois, j'ai pas aimé le courrier, de réponse, je ne demanderai plus.
Wie sind die Leute, die in Lützebüsch von Armut betroffen sind, und wie eine Unterstützung geht es hier? Und hat anderem die Frauen gehen an der Étude sur le vécu des personnes en précarité au Luxembourg et le recours aux aides, die die Chambre des Salariés zusammen mit dem LISER und dem Statag veröffentlicht hat, beantwortet. Und genau diese Étude geht es an diesem Episode. Wie definiert die Chambre des Salariés und der LISER eigentlich Armut? Wissen die davon betroffen sind, werden für Hölle vergehen? Und freuen sie sich dann auch? Wir haben am Anne-Kathrin Guillot und am Anne-Franziskus, die zwei Forscherinnen, die sich an dieser Recherche verstoppen, geschwat. Anne-Kathrin Guillot schafft beim LISER. Sie beschäftigt sich schon seit mehr als 20 Jahren mit diesem Sujet, mehr konkret keine Armut. Und Dorena versteht ihn das heute.
On est vraiment accoutumé à avoir des chiffres sur base d'enquêtes sur les conditions de vie des Luxembourgeois et en particulier sur la pauvreté. Alors la pauvreté, souvent, c'est mesuré en fonction du revenu du ménage. Et si les personnes sont sous le seuil de pauvreté, ben voilà, on dit qu'elles sont en pauvreté. Il y a d'autres indicateurs aussi basés sur les conditions de vie des personnes. Est-ce que vous pouvez vous permettre de partir une semaine en vacances en dehors de votre logement? Est-ce que vous pouvez vous permettre d'avoir des protéines tous les deux jours, d'avoir des légumes tous les deux jours, de payer vos factures. Et donc, on pose tout un tas de questions aux personnes qui sont dans l'échantillon de l'enquête. Mais ce sont des questions fermées. Donc, ils peuvent dire oui, non. Enfin, voilà, on n'a pas vraiment leur vécu, leur trajectoire, etc. Et ce qui était vraiment intéressant dans le questionnement de départ de la CSL, c'était de se dire, mais qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant de personnes en situation de pauvreté au Luxembourg? Est-ce que ce sont des gens qui sont pauvres depuis toujours? Est-ce que ce sont des gens qui ont basculé dans la pauvreté et pourquoi? Est-ce que ce sont des gens qui sont juste légèrement en dessous du seuil de pauvreté, mais que finalement, le Luxembourg étant un pays riche, ça va tout à fait au niveau de leurs conditions de vie? Ou est-ce qu'au contraire, leurs conditions de vie sont vraiment marquées par la pauvreté et qu'est-ce qu'ils souffrent au quotidien de nombreuses privations matérielles? Donc, c'était toutes les questions qu'on avait. Et la deuxième question qu'on avait sur le recours, là, c'était vraiment de se dire, mais comment est-ce possible qu'on ait autant de pauvreté alors qu'il y a quand même tout un tas de dispositifs à disposition de la population? On a l'allocation vie chère, la subvention loyer, on a des allocations plus spécifiques pour, par exemple, les enfants, la subvention pour ménage à faible revenu quand on est au lycée. Donc, on a toutes ces allocations. Et donc, est-ce que les gens les connaissent? Est-ce qu'ils les demandent? Est-ce qu'ils les ont quand ils les ont demandés, donc où est-ce qu'ils essuient beaucoup de refus? Est-ce que le dispositif est efficace? Est-ce qu'il vise bien les gens qui sont justement sous le seuil de pauvreté?
Eine étude en drei Etappen also. Für die erste, herausfinden, wen überhaupt Leute in Situation de précarité sind. Deno, Martine schwätzen, für zu verstehen, ob sie die Hilfe kennen und sie auch an Anspruch holen. Auf die aufzuschließen, Lösungen proposieren. Die letzte Teil geht allein vom LISER ausgeschafft. Dann Franziskus schafft beim Statag. Sie kümmert sich da hauptsächlich das Budget de référence. Ein Budget, an dem gerechnet wird, wie viel Ménage brauchen, für können adäquat in der Gesellschaft teilzuholen.
Am Gesetz im Statag steht, dass wir in neutral und unabhängig Administration sind. Natürlich die Propositionen schreiben, die aus einer Responsabilität vom LISER gelaufen. Ich habe mich persönlich hauptsächlich um den Terrain gekommen, ich habe also den Gruppe von dem Interview gemacht und das wird von den Resultaten haben wir zusammen gemacht. Weil wir natürlich auch diskutiert über welche Pisten mir die Responsabilität leid beim LISER. Dafür sie dürfen das und wir dürfen das nicht.
Die Frauen, die Methodologie, die Auswertung und die Interpretation von den Resultaten von der Étude haben dann Anne-Kathrin Guillot und dann Franziskus zusammen entwickelt und gemacht. Dann war im Terrain und dann Anne-Kathrin war responsabel für die Propositionen und Politik. Die Étude wurde von der Chambre des Salariés initiiert und vom LISER und vom Statag ausgeführt. Anne-Kathrin Guillot hat das zusammengearbeitet.
Donc c'est la CSL qui a contacté le LISER donc pour faire cette étude à la fois sur les conditions de vie des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, leur trajectoire qui peut expliquer pourquoi ils sont sous le seuil de pauvreté et aussi leur utilisation, leur connaissance des aides sociales et les obstacles, les barrières à l'utilisation de ces aides sociales.
Mir wies die echt a gräste Etappe da gelauf. Für das Etüd goufen 30 bis 40 lange Interview gefordert, wat immens viel aus, so dann Katrin. Sie erklärt, wen hier Interviewpartner inne waren an no wéiange Kriterien die herausgesicht goufen.
Donc au niveau de la sélection de nos répondants, on avait un double critère. C'était à la fois avoir des difficultés financières et à la fois avoir le sentiment de ne pas connaître ou de ne pas demander toutes les aides disponibles. Donc c'était deux critères très très vagues. Et puis une fois que les personnes répondaient à ces deux critères selon elles, on discutait avec eux d'abord au téléphone pour un peu voir si vraiment elles étaient éligibles au sens où nous on l'entendait. Donc par exemple quelqu'un qui gagne très 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 bien sa vie mais qui a du mal à payer un loyer qui est par ailleurs très 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 élevé, eh bien n'était pas éligible. On n'était pas dans ce type de recherche là. On voulait vraiment des personnes qui correspondaient le plus possible à la définition statistique habituelle de la pauvreté au Luxembourg. On n'a pas non plus fait le focus sur l'extrême pauvreté, les gens dans la rue, les gens dans les associations, etc. Parce qu'on voulait vraiment que ça représente vraiment cette population sous le seuil de pauvreté qui est très diverse au Luxembourg, qui peut très bien correspondre à des travailleurs, des familles monoparentales qui sont au travail, des travailleurs au SSM ou des petits retraités ou des jeunes isolés, etc. Donc on voulait vraiment que ça représente le plus possible la population qu'on connaît dans les enquêtes. Et une fois qu'on pouvait approcher ces personnes, alors en effet, on leur a posé des questions sur leurs conditions de vie et aussi sur leur connaissance et leur utilisation des aides sociales. Précisément, le non-recours, c'est un phénomène invisible. Donc les gens qui recourent, on sait qu'ils recourent. On peut les identifier dans les fichiers administratifs, mais les gens qui ne recourent pas, on ne peut pas les identifier. On ne connaît pas a priori leur éligibilité et c'est pas très bien s'ils recourent, s'ils recourent pas. Donc c'est très très difficile. Donc on a eu beaucoup de stratégies et ça a utilisé beaucoup de notre énergie en début d'étude. La première stratégie, c'est que l'enquête dont j'ai parlé, qui est utilisée pour mesurer les conditions de vie, la pauvreté au Luxembourg, ça s'appelle l'enquête sur les revenus et les conditions de vie, EU-SILC. C'est une enquête européenne qui est faite dans tous les pays européens. Et au Luxembourg, le Statec a eu cette très 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 bonne idée de demander aux gens, quand ils remplissent le questionnaire, s'ils veulent bien être recontactés pour des enquêtes qualitatives. Et donc, on a envoyé une lettre à tous les gens qui voulaient bien être contactés en leur posant la question, est-ce que vous avez des difficultés financières? Donc, les deux critères dont je vous ai parlé, est-ce que vous avez des difficultés financières à joindre les deux bouts? Et est-ce que vous avez par ailleurs le sentiment de ne pas connaître toutes les aides disponibles ou de ne pas les utiliser? Donc, les gens se sont auto-sélectionnés et puis certains nous ont recontactés. On a parlé avec eux au téléphone et on a pu voir s'ils étaient éligibles. Bon, ça nous a permis de recruter un certain nombre, quelques personnes. Par ailleurs, on a aussi eu des collaborations avec différentes associations, par exemple le collectif des familles monoparentales, où là, il y a des personnes qui nous ont contactés parmi leurs membres, différentes associations aussi qui ont divulgué l'information. On a fait des flyers qu'on a déposés un peu partout. Ça a été divulgué aussi sur les sites internet, mais aussi dans la presse. Donc, on a fait des appels. Il y a aussi une partie des participants qu'on a recrutés dans la rue, sur les chantiers, parce qu'on savait que peut-être les travailleurs à très très bas salaire pouvaient être éligibles à l'enquête. On a aussi pu, dans la rue, dans les quartiers autour de la gare de Luxembourg, par exemple, rencontrer des personnes qui étaient tout à fait éligibles et qui ont accepté de répondre à nos questions. Grosso modo, c'est pas quelques questions, c'est une longue interview d'une heure et demie où vraiment on a cette relation de confiance avec la personne et où elle nous explique ses difficultés, souvent de manière très pudique, sa trajectoire de vie et puis ensuite on voit si elle connaît et si elle utilise les aides en place.
Wir haben auch Apps benutzt, was mir im Start erkunde, dass mir die Ekiban, die erschaffen, die als responsable für eine Enquete, die Revenus et Conditions de Vie, dass die große Enquete, die zuletzt durch alle Jahre gemacht wird, sowie in allen europäischen Ländern, ob der auf die verschiedenen Armutsindikatoren geraschen gehen. Also, seit ein paar Jahren frohe mir dort Leute, wenn sie interessiert sind, können sie als E-Mails-Adresse von der Losen wenn sie wollen, zum Beispiel eine andere kleine Etude teilholen. Und du haben wir nur ein paar E-Mails zusammengekriegt und du haben wir dann die Leute eben auch geschrieben, ob ein bisschen aleatoire aber weiß. Und du haben wir ein paar Leute auch tatsächlich gefunden.
Wie Dan-Kathrin Gioet schon betont hat, sind so Interview gar nicht so einfach zu feiern, weil die InterviewpartnerInnen ganz ehrlich müssen sehen an delikat Fragen beantworten. Dan Franziskus, der um Terrain NRW war, hat uns gesagt, was die typisch Fragen waren, die an den Interview vorkommen sind.
Wir haben Leute gefragt, dass sie ein bisschen ihre Situation beschreiben, sie wohnen so lange oder haben sie keine, für was sie der Meinung sind, dass sie in einer finanziell schwierigen Situation sind und wo der Tier könnt mir den großen Unterschied von einer qualitativen Etude zu den großen standardisierten Umfragen, wie das Datex sie besuchen möchte, als dass da sehen haben so paar große Ideen hört und da gehört in den Raum oder Frieden verschiedene Sachen, viele Partizipanten denken einfach direkt um an das Ziel und dann habe ich quasi keine Frage zu stellen. Und den Fragebogen ist einfach doof, ich denke, nur zu gucken, dass vielleicht ein Aspekt, den ich vergesse oder weil Leute wirklich mal scheu sind, dann da kann ich das ein bisschen holen, für sich zu orientieren. Geht doch nicht darum, alle Fragen genau selber schon der selbst Reihenfolge zu stellen, weil er sich auch wirklich in eine Interaktion mit der Person anzulassen. Ein anderer Pro natürlich aus, die man immer gestalten hat, ja, wer helfen kann dir dann oder wer helfen wurde dir schon angefragt und wie beschreibt er den Prozess, wie dir die Hilfe von tut oder wie du dir da dann von für sie unzufrieden, wie war das für euch? Wie auch da waren oft schon Sachen, die Leute relativ einfach von selber gesucht tun.
Die Interviewen sind nicht als schöne Meeting reingefordert, gehen wir oft auf einen Platz, den die befrohte Person gut kennt. Das kann an einem Kaffee sein, für unter Abend oder sogar bei ihnen daheim. Dachmut hat für die Konzerniert ganz verschiedene Startpunkte an Impact. J'étais employé administratif et je travaillais à mi-temps suite à un cancer du sein et j'ai repris le travail, à mon avis, trop rapidement. Parce que c'était soit je reprenais mon travail, soit je perdais mon travail. Pour un jour. Donc la pression, et donc j'étais en reclassement interne chez mon employeur. Mon loyer prend 47% de mon salaire, c'est cher. Et même quand j'ai commencé à travailler, pour avoir mon propre logement, c'était un peu compliqué, du fait qu'il fallait déjà terminer la période d'essai qui était de 6 mois, et surtout avoir cette force d'épargne-là, parce qu'en fait, il faut avoir entre 2 et 3 mois de caution de loyer, et puis après encore payer les frais d'agence, et ça c'est encore un mois de loyer taxé de 17%. Ça fait 5 ans que je me sens comme une souris, vous voyez, qui tourne en rond, prise au piège. Dan Franziskus hat bestimmt Situationen an Szenen gesehen, die bei ihm besonders hängen geblieben sind, oder, Ann?
Oh, also ich muss so, und es waren oft schon verschiedene abenteuerliche Interviewsituationen dabei. Ich sitze als Journalist, ihr seht ja auch in der W, ne, mit einer Person, die hat mir proposiert, muss in 7 Uhr ob ein Park ging, an der Stadt ein Interview zu machen, 400 Abend, dann ist natürlich ein Frau, da habe ich dann immer auch geguckt, ich sichere mich auf, dass Leute Bescheid wissen, also nicht, dass ich die Leute a priori schon auf Spaces meine, heißt so wie sie nicht, auf welchen Situationen beginne ich mich ran, und dass Leute Bescheid wissen, wenn ich lange in der Weh war. Und ich muss so nicht gehen, es sind viele Situationen, die mich noch geirrt und Frauen, die einfach nicht mehr wissen, wo sie an Handen, an Oven, an Innen aus, weil es finanziell nicht durchgeht, weil sie langsam mit ihren Kindern wirklich verzweifelt Situationen. Eine Geschichte, die mich wirklich schon immens noch geirrt hat, das war ein Herr, der einen Migrationshintergrund hat, den im Bau geschafft hat und den Arbeitsakzident hat, mit den in einer Interim-Situation war, dass den hat einfach irgendwie gut nicht mehr. Weil weder sein Patron noch CNS dafür abgekommen ist, sondern hier nur in einem Haus mit 7 Abstand gewohnt, an einer Kummer, die wirklich Limite salubre war, an dem Fuß von dir hat, an die nicht immer ein bisschen auf Toilette mit den Kratzen rüber hochgehen und ja, die war immens verzweifelt und plus wird ein bisschen aus dem Haus rausgehen, weil der Proprietär das Haus für sich benutzen. an dem ich natürlich auch gefragt habe, ob ich keine GIF kann, in den Zimmer hat. Und das war eh von, auch von den großen Challenges von mir schon dieser Etude, dass das in als Forscher eine relativ ambivalente Situation heuernst du oder Position wird, weil ich sehe, ich sehe keinen Freund, der mir einfach sein Lied so erzählt. Ich sehe aber nicht den Sozialabstand, dem seine Mission nicht aus, für einen weiterzuhelfen. Und gleichzeitig schon verschiedene Leute schon Erwartungen um mich gedrungen. Die Hoffnung, da geht es nach der Hölle, oder die Hoffnung, dass Person, die kann mir nur da und da weiterhelfen. Und ich konnte das aber nicht. Und das war ein bitterer Nachgeschmack für mich persönlich. Und ich meine, das gibt viele Leute so, die immer, oder auch viele Forscher, die an so sensiblen Themen schaffen. Eine andere Person, die ich besiegt habe an einem Haus, wo sie seit Jahren wohnt, die komplett verschimmelt war, schwarze Mauern, keine Heizung da drinnen, die mir erzählt hat, sie haben einen elektrischen Radiateur an der Wohnzimmer stehen, die man sich just auf, für sich zu duschen am Winter. Und ich persönlich nur 2 Stunden hat schon gefühlt, ich kriege keine Luft mehr. Und ich will mir nicht ausmalen, wie das, wenn ich 7 Jahre in seiner Situation wohnt. Also, ich gebe nicht so, und ich habe niemals gedacht, dass es dazu Lützburg gibt. Aber das ist natürlich bedrückend zu sehen, wie es aber ist. So.
In einer zweiten Phase ist es darum gegangen, die Interviews zu interpretieren und zu verstehen, wieso die Leute nicht von den Hilfe profitieren. Wissen sie nicht, dass es denen ging, als der Aufwand für sie unzufrieden zu groß, oder ging hier der Mörder steuert? Und auf Basis davon hat dann Catherine Guillot die Lösungen proposiert.
Donc on a essayé vraiment de suivre la littérature. Donc la littérature s'est vraiment beaucoup penchée hein, sur le non-recours. C'est vraiment un sujet qui est beaucoup exploré, tant au niveau quantitatif que qualitatif. Donc il y a un certain nombre de clés de lecture. Généralement, on pense à l'information. Donc la première question qu'on a, c'est est-ce que vous connaissez les aides? Évidemment, si vous les connaissez pas, vous les demandez pas. Donc c'est la première condition. Et on a essayé aussi de voir comment les gens avaient pris connaissance des aides. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce que il y a des aides comme l'allocation vichère qui sont vraiment très bien connues. Et aussi dans toutes les communautés. Donc parfois dans la rue, j'interviewais des personnes d'origine indienne qui connaissaient l'allocation vichère. Donc c'était vraiment, on avait vraiment l'impression que c'était une allocation qui était plus connue que les autres, nettement plus connue que la subvention loyer ou d'autres types d'aides. Donc on a vraiment essayé de voir quelles étaient donc les aides qui étaient les plus connues par la population et quels étaient les canaux qui marchait le mieux pour toucher la population. Et là on voit qu'il faut vraiment avoir une grande diversité de canaux. Ça peut être à la fois les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi les toutes boîtes des communes. Et ça peut, il est vraiment important aussi que l'administration soit disponible pour répondre aux questions. Est-ce que je suis éligible? Est-ce que je suis pas éligible? Dans nos recommandations politiques, on a par exemple cette idée qui est faite en France où il y a un simulateur pour 35 aides. Donc, on rentre son revenu, sa composition de famille, 2-3 données, et puis on reçoit l'information que, eh bien, peut-être on pourrait être éligible pour telle aide. Ça ne veut pas dire qu'on l'aura demain, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton pour l'avoir, mais ça veut en tout cas dire qu'on doit investiguer ces aides-là, que peut-être on pourrait les avoir. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ce type de simulateur. Au Luxembourg, on a des simulateurs par aide, pour certaines aides. Donc, l'allocation vichère, si vous rentrez vos données, bien vous avez cette information pour le moment sur le site. Donc, il y a quand même des choses qui sont faites. Elles ne le sont pas pour toutes les aides. Donc, une première recommandation, c'est de dire qu'il faudrait vraiment que ce le soit pour toutes les aides. Il y a aussi des informations sur le site qui sont en langage très simplifié. Ça, c'est vraiment important. Donc, dans un langage simple, on vous explique quels sont les critères. Puis, bien sûr, il faut remplir les papiers, mais au moins, vous avez cette information simplifiée. Donc, l'importance des langues aussi, hein, que ce soit accessible dans beaucoup de langues. Que la langue soit pas un obstacle. Ça, c'est au niveau de l'information, donc avec des choses qui sont vraiment très, très bien faites au Luxembourg, puis d'autres qui doivent être améliorées pour certaines aides. L'autre étape, c'est une fois que je connais l'aide, que je sais qu'elle existe, il faut que je remplisse le formulaire au bon moment, avec les bonnes informations, etc. Et donc là, il y a 2 choses qui sont vraiment revenues souvent. Pour les gens qui avaient fait cet effort, c'est que souvent, ils ne comprennent pas le refus. Donc, il y avait beaucoup de refus. Donc, la plupart du temps, les gens connaissaient relativement bien les aides, mais avaient essuyé beaucoup de refus. Donc, ils ne comprennent pas les raisons du refus. Ils sont parfois choqués, parfois blessés. On a rencontré vraiment beaucoup de gens qui disaient « Moi, j'ai demandé une fois, j'ai pas aimé le courrier de réponse, je ne demanderai plus, je vais me débrouiller ». Donc vraiment une situation qui amène au retrait un peu de la vie, du recours en fait. Simplement se dire moi je ne recours plus, je trouve ça humiliant, je veux plus qu'on me refuse. J'estime que j'en ai besoin, mais je vais pas essuyer un refus une deuxième fois. Il y a des gens qui ont essuyé des refus il y a 20 ans. Les conditions ont changé, à la fois les conditions d'éligibilité de l'État luxembourgeois, mais leurs conditions de vie aussi, ils ont plus d'enfants ou des choses comme ça, mais ils disent non, je ne recommencerai pas à demander. Donc là, une des recommandations, c'est vraiment de se dire, il faut vraiment prendre soin du courrier, vraiment. Donc en effet, il faut pouvoir expliquer en cas de recours légal qu'on suit bien la loi, hein. Mais il faut que ça reste vraiment un langage que vous et moi, on peut comprendre. Et si possible, le plus grand nombre de résidents doivent comprendre, vraiment, avec peut-être une interface où on peut expliquer le refus. Ou aussi, on peut expliquer que peut-être l'administration a fait un refus erroné. On n'a peut-être pas rempli de la bonne manière, on n'a peut-être pas remis le bon document. Et dans ce cas-là, on devrait avoir une deuxième chance quelque part, dire « Oh, je me suis trompée, désolée, mais en fait, ma situation, c'est celle-ci, et finalement, j'ai peut-être droit à l'allocation. » Donc, beaucoup plus de souplesse au niveau du recours lui-même. Alors, ce qui est aussi beaucoup remonté de ces interviews, c'est vraiment la difficulté de redemander l'allocation chaque année, avec cette lassitude de devoir refaire tout le dossier comme si on l'avait jamais fait. Donc là aussi, il devrait y avoir des possibilités de reprendre les informations d'année en année, de demander aux gens ce qui a changé, de pouvoir beaucoup plus automatiser la demande chaque année. Et alors, une autre critique qui a été faite pour certaines allocations, c'est les longs délais. Vraiment, entre le moment où on demande et le moment où on reçoit, il y a parfois 6 mois, 8 mois. Il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui sont vraiment, souvent, mais vraiment sur la ligne au niveau budgétaire, vraiment. Donc, qui peuvent sombrer à tout moment, qui doivent continuer à payer le loyer, qui doivent continuer à payer les factures. Et donc, ils doivent pouvoir compter sur ces allocations. Une fois qu'on la demande et qu'on sait qu'on y a droit, il faudrait la recevoir tout de suite. Donc, vraiment, ces longs délais sont vraiment très compliqués à gérer pour les personnes. Bon, après, tout ça, c'est l'information, puis je demande l'aide, j'ai un refus, je ne comprends pas, ça c'est très important d'expliquer, je l'ai l'aide, mais peut-être trop tard ou pas dans les bons délais, et puis je dois encore la redemander l'année prochaine. Donc on est dans ce processus-là. Et puis dans la littérature, on parle aussi du recours qui serait peut-être dû à l'administration, donc au processus de l'administration. L'administration peut se tromper. Donc ça, on a estimé, on n'a pas d'infos, on n'a pas du tout interviewé les administrations. Enfin, on a un peu interviewé les ministères pour bien comprendre comment fonctionnait l'octroi de l'aide, mais on n'a pas pu, dans le cadre de cette étude-là, interviewer les fonctionnaires pour connaître leurs difficultés. Mais en tout cas, ce qui serait très important, c'est d'essayer de comprendre les difficultés de l'administration, d'évaluer. Par exemple, de pouvoir prendre, je ne sais pas moi, quelques dossiers au hasard et de les faire traiter par d'autres personnes indépendantes, extérieures à l'administration, et de voir s'il n'y a pas trop d'erreurs, il n'y a pas trop de subjectivité dans le jugement, par exemple. Donc, ça serait vraiment très important d'évaluer le processus au sein de l'administration et d'essayer de voir aussi les raisons du refus. Donc, je prends un exemple. Si pour une allocation, 90% des refus sont dus à tel point dans le questionnaire, enfin dans le dossier qui doit être rempli, peut-être que ce point est très difficile pour les personnes. Elles ont peut-être besoin d'aide, ou il faut mieux l'expliquer, ou il faut peut-être changer ce critère. Donc voilà, ça c'est vraiment très important.
Mehr Automatisation an Information, mehr aber auch Manner Stigmatisation, ein Sujet, den dem an Franziskus besonders wichtig ist. Lust euch aufschließend nach Mathieu drüber schwätzen.
Ich als Soziologin fand in das Thema von der Stigmatisation immens wichtig, und dass das Gefühl von, die Schimpf, die Leute können haben, für Hilfe von unzufrieden. Und zusätzlich aber auch das Stigma, dass Leute in der Armut sind, dass die selber Schuldtrainer sind und dass sie eben immer probieren zu gucken, die Responsabilität liegt bei den Leuten. Aber oft vergisst man, dass es strukturelle Inegalitäten in der Gesellschaft gibt, für die Leute nicht können. Ne? Wenn die in einer Familie groß geht, wo nicht die notwendig linguistisch, kulturell, kognitiv Kompetenzen da sind, für erst durch das Schulsystem zu helfen, dann wird ja schon ein viel schlechter starten. Das ist das Beispiel. Ich meine, mir ist eine große Aufgabe gemacht, zu Lützburg, mir natürlich schon alle anderen europäischen Länder auch, für das da einfach ein bisschen anders das geguckt wird, dafür nicht zu suchen, sie just Leute an Schultern und sie sind selber responsabel für ihr Schicksal, ihnen für Leute, die haben mehr Glück und andere, die haben mehr Glück.
An diesem Episode haben wir mit Anne Franziskus vom Statak und mit Anne-Catherine Guillot vom Lisère über die Études sur le vécu des personnes en précarité au Luxembourg und le recours aux aides geschwat. Sie haben uns erzählt, für was diese Études initiiert und realisiert gauf, welche Resultate daraus kommen und welche Leute, die von Armut betroffen sind, helfen können. Wenn ihr noch mehr über dieses Sujet wollt wissen, dann besucht die Seite von der Chambre des Salariés. csl.lu